VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 1er août 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sebudia. Tout d'abord les titres. Au Burkina Faso, des rafales de coups de feu entendues dans le centre de Ouagadougou. L'ambassade de France au Niger annonce une évacuation très prochainement de ses ressortissants. Au Niger même, le CNSP, organe dirigeant de la junte, initie des rencontres avec différents acteurs de la vie de la nation. Le Burkina et le Mali, solidaires du Niger face à la menace d'intervention militaire de la CDAO. Au Sénégal, 2 morts dans les manifestations consécutives au placement en détention de l'opposant Ousmane Sonko. Au Nigeria, le président Bola Tinubu annonce des mesures face au coût de la vie suite au pillage massif de denrées alimentaires dans le nord-est du pays. La Russie dit avoir repoussé une attaque de drones navals contre ses patrouilleurs en mer Noire. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les Français du Niger ont été prévenus mardi par un message de l'ambassade de France à Niamey qu'une opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation et aura lieu très prochainement. C'est ce qu'a confirmé aussi le ministère des Affaires étrangères à Paris. Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger et profitant du calme relatif dans Niamey, une opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation depuis Niamey, selon le message qui précise qu'elle aura lieu très prochainement et sur un laps de temps très court. Au Niger même, au lendemain de l'ultimatum de la CDAO, aux auteurs du coup d'État pour rétablir les autorités déchues dans leurs fonctions, le CNSP, organe dirigeant de la junte, poursuit ses activités. Ce lundi, il a initié des rencontres avec différents acteurs de la vie de la nation, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le général Abdrahmane Tchiani a d'abord rencontré le patronat avec à sa tête le président de la Chambre de commerce Moussa Sidi Mohamed. Rien n'a filtré des échanges entre les deux parties. Il en est de même de la rencontre avec les chefs religieux traditionnels. La télévision nationale a fait écho de plusieurs manifestations et déclarations de soutien aux militaires en provenance notamment de l'intérieur du pays. Les messages de solidarité des peuples maliens, burkinabés et guinéens exprimés par des responsables de ces trois pays au CNSP et au peuple nigérien ont également été largement relayés sur les médias d'État et sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, les arrestations de dignitaires de l'ancien régime se sont poursuivies en début de soirée de ce lundi. Le ministre de l'économie et son homologue du plan ont été interpellés. Des arrestations que l'ancien parti au pouvoir, le PNDS Tareya, qualifie d'abusives. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Burkina Faso et le Mali ont donc apporté leur solidarité fraternelle au Niger. Dans un communiqué conjoint, les deux pays menacent même de quitter la CDAO en cas d'intervention militaire de celle-ci au Niger. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le communiqué conjoint est lu à la télévision nationale burkinabé par le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo. Les deux pays refusent clairement d'appliquer les sanctions de la CDAO jugées illégales, illégitimes et inhumaines contre le Niger. Le Burkina et le Mali avertissent l'institution que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre Ouagadougou et Bamako. Ils préviennent aussi que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CDAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Les deux pays ont mis en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été dit-il. L'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Enfin, le Burkina et le Mali ont invité les populations à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Pour rester au Burkina Faso, des rafales de coups de feu ont été entendues dans les premières heures de mardi dans le centre de Ouagadougou, près de la base aérienne, selon un journaliste de l'AFP. Les coups de feu ont commencé à être entendus vers 0h45 locale et GMT, au cœur de la capitale burkinabé, avant de cesser environ 40 minutes plus tard. C'est un malheureux incident limité à la base aérienne, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire sans plus de précision, affirmant que la situation est sous contrôle. Momentanément interrompue, la circulation a repris timidement après les tirs, a constaté le journaliste de l'AFP. Ces tirs nourris sont intervenus 10 mois après un coup d'État, le deuxième en moins d'un an, enregistré dans ce pays en proie à la violence djihadiste. Ils surviennent aussi, comme vous le savez, 6 jours après un putsch dans le Niger voisin qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Au Sénégal, 2 personnes ont été tuées lundi à Ziguinchor, dans le sud, lors de manifestations qui ont suivi l'inculpation et le placement en détention de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, notamment pour appel à l'insurrection, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Des heurts sporadiques ont également éclaté lundi en début de soirée aux parcelles assainies, dans la banlieue de Dakar, où des jeunes se sont attaqués aux forces de l'ordre qui les ont dispersés avec des gaz lacrymogènes, selon l'AFP. Ousmane Sonko, le plus farouche opposant au président Macky Sall, a été inculpé et écroué lundi pour divers crimes, dont l'appel à l'insurrection, ayant provoqué des tueries et des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés, justifiant la dissolution de son parti, selon les autorités. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a annoncé hier plusieurs mesures contre le coût de la vie, dont le déblocage de 200 000 tonnes de céréales après des pillages massifs de denrées alimentaires dans le nord-est du pays, Claire Morin-Gibourg.
Le prix du carburant a augmenté, le prix des denrées alimentaires et autres ont suivi. Les ménages et les entreprises sont en difficulté, a reconnu Bola Tinubu dans un discours retransmis à la télévision. J'aimerais qu'il y ait d'autres solutions, mais ce n'est pas le cas. Pour réduire le fardeau de la crise économique, le chef de l'État nigérian a promis au moins 240 millions d'euros pour le secteur agricole, 150 millions pour les PME et 90 millions pour le secteur manufacturier. Et il a ordonné le déblocage de 200 000 tonnes de céréales provenant des réserves stratégiques. Dimanche, un couvre-feu total a été instauré dans l'État d'Adamawa, dans le nord-est, où des centaines d'habitants se sont livrés à des pillages massifs de magasins et d'entrepôts publics de stockage de nourriture, ont annoncé les autorités locales. Depuis son investiture, M. Tinubu a pris une série de mesures économiques, dont la fin des subventions sur les carburants, ce qui a eu de graves effets sur le portefeuille des ménages, aggravant la pauvreté dans la première économie d'Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le bilan de l'attentat suicide perpétré dimanche lors d'un rassemblement politique dans le nord-ouest du Pakistan ne cesse de s'alourdir. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique a fait au moins 54 morts, dont de nombreux mineurs. Le point avec Jean-Roger Bion.
Cet attentat s'est produit dans la ville de Kar, dans le district de Bajor, à 45 km de la frontière afghane. Il fait craindre une période électorale sanglante au Pakistan, qui connaît une grave crise politique depuis l'éviction du Premier ministre Imran Khan de son poste en avril 2022. Pour la plupart, les attaques récentes avaient été menées contre les forces de sécurité et des infrastructures plutôt que lors de rassemblements politiques. Le gouvernement pakistanais doit être dissous dans les 2 prochaines semaines et des élections sont prévues d'ici la mi-novembre. L'explosion de dimanche est une tentative d'affaiblir la démocratie, a réagi une porte-parole du chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell. Les attaques au Pakistan ont augmenté depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021, puis la fin du cessez-le-feu entre le groupe taliban pakistanais Tehrik-i-Taliban Pakistan et le gouvernement pakistanais à la fin du mois de novembre.
L'armée russe a affirmé ce mardi avoir repoussé pendant la nuit une attaque de 3 drones navals ukrainiens contre ses patrouilleurs en mer Noire, au cœur de tensions accrues entre Kiev et Moscou depuis le retrait de la Russie de l'accord céréalier mi-juillet. La mer Noire est au centre de tensions exacerbées après l'annonce par la Russie le 17 juillet de la fin d'un accord international sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou et Kiev ont tour à tour mis en garde les navires qui naviguent sur la mer Noire, avertissant qu'ils pourraient être visés s'ils se dirigeaient vers les ports dits ennemis. En parallèle, plusieurs vagues d'attaques de drones ont frappé ces derniers jours Moscou et la Crimée annexée. La Minute Éco, Lionel Gahima.
Au Congo-Brazzaville, les sociétés d'assurance contestent la plateforme électronique de gestion de l'assurance transport liée à l'importation IPAFGOT lancée ce mois-ci par le guichet unique des opérations transfrontalières. L'Union patronale et interprofessionnelle du Congo s'inquiète de cette situation qui pourrait bloquer les produits importés et causer des pénuries et de l'inflation des produits de première nécessité. Unicongo en appelle à la responsabilité des autorités et des tutelles, tandis que d'autres demandent l'annulation simple de la plateforme. En Égypte, la population est confrontée à une crise énergétique et à des coupures d'électricité à répétition qui pourraient encore faire hausser le prix de l'électricité, alors que les Égyptiens sont déjà aux prises avec une inflation à 37% et une dévaluation de 50% qui pèse sur les importations. Le Caire affirme que des fortes chaleurs font flamber la consommation des ménages et des stations en gaz. La Chine et l'Algérie annoncent leur volonté d'approfondir leur coopération dans plusieurs secteurs clés, dont les infrastructures, la pétrochimie, les minéraux et l'agriculture. Pékin et Alger veulent également renforcer leur coopération dans l'aérospatiale, l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables et les affaires internationales et régionales.
Merci Lionel. À présent, les sports avec Nani Talani. Nanit, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Sadio Mané confesse que ça lui fait mal de quitter le FC Bayern.
Quitter le FC Bayern me fait mal. J'aurais souhaité une fin différente. Je sais que j'aurais pu aider l'équipe cette saison. Je voulais le prouver à tout le monde cette saison. Je souhaite seulement au club et aux fans le meilleur pour l'avenir. C'est ce qu'a affirmé à nos confrères de Sky Sport, Sadio Mané, qui va bientôt être officialisé par Al Nasser en Arabie Saoudite.
Mondiaux d'athlétisme, le Kenyan Emmanuel Kipkurui Korir reste confiant quant au championnat du monde d'athlétisme 2023 malgré une récente blessure.
Effectivement, le champion du monde du 800 mètres, Emmanuel Kipkurui Korir, affirme sa confiance pour défendre son titre au championnat du monde d'athlétisme 2023 qui se tiendront du 19 au 27 août à Budapest en Hongrie. Figure de l'athlétisme mondial et attraction sur le 800 mètres masculin, Emmanuel Korir affirme être prêt pour cette compétition malgré son absence aux sélections nationales qu'il avait dû abandonner à la dernière minute pour sa sécurité. Il luttait contre une blessure au mollet qui aurait pu facilement s'aggraver s'il avait participé aux sélections. « Je suis sûr que je serai dans un état sain au moment où nous nous rendrons en Hongrie », assure Emmanuel Korir, qui, en 2020, avait déjà réussi l'exploit de se relever de blessure pour remporter l'or aux Jeux olympiques de Tokyo.
Afro-basket féminin 2023, 4 places sont en jeu pour les quarts de finale qui débutent ce mardi au Rwanda.
4 matchs sont à l'affiche aujourd'hui à Kigali, la capitale rwandaise. L'Angola affrontera la Guinée à 10h temps universel, l'Égypte jouera contre le Sénégal à 13h temps universel, le Mozambique se mesurera à la Côte d'Ivoire à 16h temps universel. Enfin, l'Ouganda en découdra avec la République démocratique du Congo à 19h temps universel.
Merci Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO, tenu dimanche à Abuja, s'est achevé sur des résolutions fermes contre les nouvelles autorités militaires du Niger. L'organisation régionale donne une semaine à la junte pour remettre le pouvoir au président Mohamed Bazoum et n'exclut pas l'usage de la force. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint Sédic Abba, chercheur à l'Université du Québec à Montréal.
La CEDEAO a cherché à redorer sa crédibilité. On sait qu'elle a été impuissante dans le cas du Mali, dans le cas de la Guinée, dans le cas du Burkina Faso, et elle ne voudrait pas être à nouveau impuissante dans le cas du Niger. Donc elle joue son va-tout pour sauver sa propre crédibilité et donner l'impression que maintenant qu'elle a repris tout en main, et l'enjeu du Niger est un enjeu donc absolument important à la fois pour elle, au-delà même de l'enjeu diplomatique et sa propre crédibilité. Et deuxième élément d'analyse, c'est que le président Tinubu, qui a pris la présidence le 10 juillet, voudrait marquer son passage à la présidence de cette organisation avec un acquis important, et de ce point de vue, et pour lui, laisser passer le coup d'État au Niger est une chose inacceptable. Il voudrait inaugurer son mandat à la présidence de la CEDEAO par une action forte.
Est-ce qu'une intervention militaire est plausible ou même souhaitable, surtout si la junte bénéficie d'un soutien populaire?
Oui, une intervention militaire est contre-productive. À mon avis, si la CEDEAO met la pression en faisant miroiter la possibilité d'une intervention pour faire plier la junte, ça peut se comprendre. Mais passer à la phase pratique d'une intervention militaire, ça me paraît très complexe et ça risque d'être contre-productif. Il y a aujourd'hui dans l'opinion nigérienne des gens qui n'adhèrent pas au coup d'État, mais qui vont rejoindre la junte dès lors qu'il y aura une intervention parce qu'ils considèrent que l'enjeu de la souveraineté nationale est plus important que toute autre considération. Et c'est vers cela qu'il faut éviter d'aller. À mon avis, si la CEDEAO précipite une grande partie de l'opinion dans les bras de la junte, ce serait contre-productif. Il vaut mieux qu'elle s'en tienne aux sanctions les plus dures qu'elle n'ait jamais prises, même plus dures que celles du Mali, pour voir les effets que ça pourrait donner et comment ça pourrait faire infléchir la junte, plutôt que de faire ce pari improbable d'une intervention militaire qui est techniquement compliquée. Comme l'a dit l'état-major des armées du Niger, s'il y a une intervention, on ne peut même pas garantir l'intégrité physique et la vie du président, du président Bazoum, qui est pour l'instant retenu au palais par la junte qui contrôle le palais.
Que signifie tout cela pour la région, ce dernier coup de force des militaires au Niger?
Pour la région, je pense que c'est une vraie catastrophe parce que le défi sécuritaire n'a pas reculé. Il continue même à progresser avec l'extension de la menace, l'aggravation dans les pays du Sahel et puis l'extension aux pays du Golfe de Guinée. Avec l'instabilité politique qui devient chronique, avec le coup d'État du Niger, on en arrive au cinquième coup d'État, deux au Mali, deux au Burkina, un au Niger pour le Sahel. Et si on ajoute la Guinée, on arrive au sixième coup d'État. Et ça, à mon avis, c'est très grave que l'insécurité vient s'ajouter à l'instabilité politique. Et il faut craindre cette déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est un élément important de la stabilité de l'ensemble du continent africain.
Sédic Abba, chercheur et analyste politique. En République centrafricaine, un jour seulement après la tenue du référendum sur une nouvelle constitution, le camp du oui crie à la victoire. L'opposition de son côté salue le respect de son mot d'ordre de boycott et dénonce selon elle des résultats connus d'avance. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Les réactions n'ont pas tardé à affluer au lendemain du scrutin référendaire. La première est celle de l'Autorité nationale des élections. L'institution salue une opération réussie en dépit de nombreuses inquiétudes liées à la situation sécuritaire. Mathias Barthélémy Moruba, président de l'ANE.
C'était un grand défi qui a été levé sur l'ensemble du territoire. Dans les 5448 bureaux de vote que nous avons pu organiser les élections. Beaucoup de gens nous ont découragés, beaucoup nous ont lancé des défis, beaucoup n'ont pas cru, beaucoup ont pensé que les populations ne pouvaient même pas se rendre dans les bureaux de vote, beaucoup ont pensé que nous ne pouvons pas arriver à terme.
Alors que les résultats provisoires sont attendus d'ici à lundi prochain, les partisans du oui crient déjà à la victoire. Évariste Ngamana, directeur national de la campagne référendaire du oui, a avancé ce lundi au cours d'une conférence de presse des chiffres non officiels.
Hier, tout le monde a pu constater, malgré les appels au boycott d'une partie de l'opposition, le peuple centrafricain s'est rendu massivement aux urnes pour voter la loi fondamentale de son pays. Selon les premières tendances, je dis bien, selon les premières tendances, ce ne sont pas encore les résultats, la nouvelle constitution est votée à 90%, avec un taux de participation de 70%.
Dans le camp de l'opposition, c'est la satisfaction, même si l'on pense que les résultats sont connus à l'avance. Pour le Bloc républicain pour la défense de la constitution du 30 mars 2016, BRDC, les centrafricains ont fait preuve de patriotisme en boycottant le scrutin. Martin Ziguele, porte-parole du BRDC.
Le peuple centrafricain, dans sa diversité, partout dans le pays et à l'étranger, nous a agréablement surpris. Si ce scrutin avait été un vrai référendum, le non l'aurait emporté à 99,99%. Quasiment tous les centrafricains sont restés à la maison.
Pendant que les différents camps revendiquent le respect de leur mot d'ordre, la CEAC, qui a déployé ses observateurs dans certains bureaux de vote, a fait aujourd'hui le bilan de l'opération. Marie-Madeleine Kalalangoy, chef de mission.
Dans les circonscriptions électorales de Bangui, la mission a observé le scrutin dans 125 bureaux de vote. La majorité des bureaux de vote visités étaient situés dans des bâtiments publics et privés, pour la plupart dans des établissements scolaires. La mission a noté une participation significative des femmes et des jeunes électeurs le jour du scrutin. La mission a noté que le matériel électoral était disponible en quantité suffisante et conforme aux standards dans la plupart des bureaux de vote visités. Par endroits, la mission a également noté l'insuffisance ou le manque de bulletins de vote et d'enveloppes.
Les urnes ont commencé à être acheminées au centre de traitement des données de l'ANE. Si cette nouvelle constitution est adoptée, le mandat présidentiel passera de 5 à 7 ans, renouvelable plusieurs fois. Les binationaux ne seront plus autorisés à briguer la magistrature suprême de l'État. Freeman Sipila Bongui pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
La journée internationale de la femme africaine a été commémorée hier, lundi 31 juillet, dans l'est de la République démocratique du Congo, où la situation humanitaire est alarmante. Des milliers de femmes vivent dans la misère et des femmes leaders ont décidé de plaider leur cause. Reportage de Zanem Neti Zaidi.
Dans les camps de Ngangi, au nord de Goma, Béatrice Semaseka, une déplacée venue des Rougari, en territoire de Rutshuru, se bat pour nourrir ses enfants alors que son mari ne travaille pas.
Je vis dans cette cabane avec mes trois enfants et mon mari qui ne travaille pas. Si je ne fais pas la couture des habits, je me rends dans les parcs pour transporter la braise. Parfois, je vais aussi demander auprès des cultivateurs qui récoltent des pommes de terre et des choux. Tout ça pour nourrir ma famille.
Plusieurs cas de violences sexuelles ont été enregistrés lorsque ces femmes déplacées se rendent dans les parcs à la recherche de nourriture. Des organisations féminines locales se sont mobilisées pour plaider la cause de ces personnes vulnérables. Généreuse Kayene est coordonnatrice de Women Today, une organisation qui vise l'émergence d'un Congo où les femmes sont au cœur d'un monde sans violence ni pauvreté.
L'Est de la République en particulier traverse des périodes de crise humanitaire où on observe des violences à répétition qui ont laissé des vulnérabilités et des conditions accrues des populations. Women Today contribue dans la lutte contre les violences basées sur le genre à travers l'autonomisation des femmes et des filles vulnérables en leur apprenant des petits métiers. La femme du Nord Kivu a droit à la paix pour son épanouissement.
Ce 31 juillet est aussi l'occasion pour les femmes leaders de la province du Nord Kivu, à l'instar de Chantal Faïda, de renforcer leur plaidoirie auprès des autorités politiques pour plus de considération de la femme au même titre que l'homme dans les instances de prise des décisions.
Les femmes sont majoritaires dans tous les pays africains. Cependant, au niveau décisionnel, elles représentent à peine 20%. C'est dire qu'il y a encore beaucoup d'obstacles culturels, économiques, juridiques politiques qui freinent l'épanouissement de la femme. Et cette occasion de la journée du 31 juillet nous donne l'opportunité de faire un appel aux décideurs de pouvoir redoubler d'efforts pour qu'il y ait plus d'effectivité des droits politiques et sociaux des femmes.
La célébration historique de la journée de la femme africaine remonte au 31 juillet 1962, lorsque des femmes du continent s'étaient réunies à Dar es Salaam pour créer la conférence des femmes africaines. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Bénin, le gouvernement entend faire du pays une nation qui rayonne par la valorisation de ses données massives par le biais de l'intelligence artificielle à l'horizon 2027. Une stratégie qui a permis d'enregistrer de nombreuses innovations dans le domaine de la robotique, tant sur les plans sécuritaires que sanitaires. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Bertin Naoum, ce Béninois de 53 ans né au Sénégal, ne sera plus seul à révolutionner le monde de la robotique à travers ses créations qui font parler d'elle dans le monde de la chirurgie. Les étudiants d'une école de Cotonou viennent de mettre sur pied une intelligence artificielle du cerveau appelée le classificateur de tumeurs cérébrales. Randall Mbavé est l'un des développeurs.
C'est une application de type médical mise en place par des étudiants qui avaient pour but en fait de permettre aux différents hôpitaux et centres médicaux de pouvoir identifier depuis des photos qui sont prises par les scanners en fait si mon cerveau est potentiellement atteint de tumeur et également à quel stade de la tumeur j'en suis ou principalement au docteur à quel stade de la tumeur le patient en est.
Les autorités encouragent ce genre d'innovation à travers l'approbation de la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées NIAM 2023-2027. Théophile Haï est le directeur d'une université de technologie à Cotonou. Avec ses étudiants, ils ont créé le robot policier.
C'est quatre caméras pour voir dans quatre directions. Il verra un peu mieux qu'un homme. Il est mobile au milieu du carrefour, comme les policiers humains le font. Celle-ci, c'est pas fait pour renvoyer les policiers au chômage, mais c'est plutôt pour les aider. Ce robot est efficace et peut, avec transmission dans un premier temps de l'image à un centre de contrôle avec ses caméras qui jouent le rôle de la vision et du traitement avec identification des plaques au cas où un conducteur malveillant aurait fait infraction.
La robotique au Bénin a une histoire. Il y a 5 ans, des élèves de plusieurs écoles sont allés aux USA, plus précisément à Washington DC, représenter le Bénin au First Global Challenger, une compétition au cours de laquelle ils ont impressionné en remportant la 7e place au niveau mondial et la première en Afrique. Ils sont les bénéficiaires d'un programme qui forme les élèves à la robotique. Rachel Orumo est la promotrice de Benebot Challenger, une initiative qui promeut la robotique chez les enfants.
Aujourd'hui, compte tenu des succès que nous avons marqués à ces programmes, nous pensons que c'était idéal d'amener ces élèves ensemble pour qu'ils puissent réfléchir, travailler ensemble afin de voir quel impact nous pouvons avoir sur le plan national.
Pour nous, c'est véritablement une occasion de mettre en avant des pratiques qui jusqu'ici n'étaient pas beaucoup utilisées mais qui comportent en eux-mêmes l'utilisation de plusieurs métiers du futur.
Les développeurs béninois sont impatients de montrer toute l'étendue de leur talent. Pour Ludovic Péonton, qui ne jure que par l'intelligence artificielle, il y a de la richesse à se faire.
Il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine de la robotique en fait. La robotique, c'est l'un des domaines qui connaît une plus grande croissance au monde en fait. Il y a plus de 3 milliards de robots qui sont mis sur le marché chaque année. Et si on doit un peu rétrécir pour aller dans le domaine de l'IoT, en fait, ça serait un marché qui va générer un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars. Donc, en termes d'équipement, de prix, en fait, c'est vraiment énorme, en fait.
De Cotonou, Ginette Fleur Dandé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Lionel Runanira Gahima, à la console, Mop Charleston. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex-Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.